klein. Oef.
Vous écoutez Pinode sur pinode.org et en DAB+ dans le Haut-Rhin. Dédale dedans, vous y êtes. Poésie sonique et son électrique sur Pinode Radio. Deuxième variation, ce qui reste vivant. Comment sortir du labyrinthe dans lequel nous sommes pris? Laissez-vous flotter dans cette navigation sonore qui tentera d'ouvrir l'espace pour faire se déployer des voies parallèles. Quelques pièces de poésie sonore, Julien Blaine, Jörg Piringer, Maya Yantar, Bernard Parmigiani et Vinciane Després. Vous venez d'entendre parler Inil, perruche parisienne qui vit au 8e étage d'un immeuble et qui sait parler comme ça. C'est son langage par moment. Alors pour commencer, deux archives de poésie, une performance de Julien Blaine quelque part dans les années 80 que Julien m'a envoyée il y a quelques jours et qui a un son des années 80 un peu vieux, un peu abîmé, mais voilà. Ensuite, une pièce de Jörg Piringer avec un titre très dur à prononcer, Sir Geert Milben. Et enfin, une pièce inédite de 10 minutes de Maya Yantar qui s'appelle Fausse glace noire. Et cette pièce est une réflexion essentiellement sur le silence, comment créer l'expérience du silence, presque comme entité physique. Pour elle, c'est une sorte de miroir de cette période étrange, cette période d'étrange dichotomie entre la recherche d'une vie interne qui serait silencieuse et la confrontation au tourbillon externe incessant, inarrêtable. Alors d'abord, avant d'arriver au silence de Maya Yantar, on commence par les cris. Les vociférations de Julien Blaine.
Au premier moment, alors ce fut cette fois comme à l'opéra. Dans ce qu'on appelle si communément la performance. Pour moi, le poème en chair et en os est désormais un nouvel opéra. Opéra, poema, au poema, là. Le poème, l'œuvre, œuvre nouvelle, le poème, ce qui peut frustrer, troubler mon spectateur, favori, habitué à la tête, perso. Non, là, dans ce poème, dans le poème, dans cet opéra, dans cette preuve, il doit aussi regarder, ou du moins voir, écouter, ou du moins entendre l'acteur poète, même s'il écoute ailleurs. Il doit encore écouter, ou du moins entendre, regarder, ou du moins voir le musicien poète, même s'il regarde ailleurs. Il doit encore regarder, ou du moins voir, fumer, ou du moins sentir l'accompagnateur poète, même s'il respire ailleurs. Il doit enfin regarder et écouter, respirer, ou du moins désespérer. Je ne suis que le quart maintenant de ce poème en chair et os, de ce nouvel opéra, de ce poème-bras. Pauvre poème et poème mûr sont aussi dans la valise du poème-bras. Poème opéra, poème opéra, 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 poésie opéra, opéra, poésie opéra, opéra, poème-mort, 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 poème-mort. Maintenant, le cinquième, puisque le droit correspond tous les sens. Regardez, entendre, humer, désespérer, correspondre, m'adonner, Mal de mer.
Joan et tant d'autres.
Hérasim, Alain, et tant d'autres. Cette douleur dans et au-dedans. C'est mon mal, ou celui de la leur, de mes amis, de la mort, c'est l'union de mes amis, c'est le là, de celui-ci, et tant d'autres.
Elle, bête et abominable! Incroyable, et bête irredoutable, et bête épouvantable, et bête épouvantable, 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 épouvantable. J'ai supprimé le haut, cette cible, pour graver une dalle, tous amis évanouis dans le trou du haut d'elle. Et bête et abominable, et bête effroyable. Et bête et redoutable, et bête épouvantable, 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 épouvantable. Et 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, debout, 8, couché, 8, infini, 8, couché, la lune, 1, debout, couché.
Voilà Julien Blaine, poète des signes du monde, qui souffle dans des conques, qui sait parler aux morts, qui sait parler aux animaux. Et maintenant, la pièce de Jörg Piringer, poète sonore autrichien. Maya Yantar, fausse glace noire. Voilà, Maya Yantar et cette pièce qui ouvre vers le silence. Et maintenant, retour dans le temps avec une pièce de Bernard Parmigiani tirée de son Dedans, Dehors. Une pièce qui s'appelle Lointain, Proche et qui, pour moi, résonne avec cette pièce de Maya et cette situation que l'on vit ensemble. lointain, proche, un autre grand monsieur va nous chanter une petite chanson juste avant que je commence à lire le texte de Vinciennes Després, c'est-à-dire son introduction, le début de son dernier livre, Habité en oiseau. Et pour commencer, d'abord, Robert Filliou. Habité en oiseau. Il s'est d'abord agi d'un merle. La fenêtre de ma chambre était restée ouverte pour la première fois depuis des mois, comme un signe de victoire sur l'hiver. Son chant m'a réveillée à l'aube. Il chantait de tout son cœur, de toutes ses forces, de tout son talent de merle. Un autre lui a répondu, un peu plus loin, sans doute, d'une cheminée des environs. Je n'ai pas pu me rendormir. Ce merle chantait, dirait le philosophe Étienne Souriau, avec l'enthousiasme de son corps, comme peuvent le faire les animaux totalement pris par le jeu et par les simulations du faire semblant. Mais ce n'est pas cet enthousiasme qui m'a tenu éveillée, ni ce qu'un biologiste grognon aurait pu appeler une bruyante réussite de l'évolution. C'est l'attention soutenue de ce merle à faire varier chaque série de notes. J'ai été capturée dès le second ou le troisième appel par ce qui devint un roman audiophonique dont j'appelais chaque épisode mélodique avec un « et encore » muet. Chaque séquence différait de la précédente, chacune s'inventait sous la forme d'un contrepoint inédit. Ma fenêtre est restée à partir de ce jour, chaque nuit ouverte. À chacune des insomnies qui ont suivi ce premier matin, j'ai renoué avec la même joie, la même surprise, la même attente qui m'empêchait de retrouver, ou même de souhaiter retrouver, le sommeil. L'oiseau chantait, mais jamais chant en même temps ne m'a semblé si proche de la parole. Ce sont des phrases, on peut les reconnaître. Elle m'accroche d'ailleurs l'oreille exactement là où vont toucher les mots du langage. Jamais chant en même temps n'en aura été plus éloigné, dans cet effort tenu par une exigence de non-répétition. C'est une parole, mais en tension de beauté, dont chaque mot importe. Le silence retenait son souffle. Je l'ai senti trembler pour s'accorder au chant. J'ai eu le sentiment le plus intense, le plus évident, que le sort de la terre entière et peut-être l'existence de la beauté elle-même en ce moment reposait sur les épaules de ce merle. Étienne Souriau parlait d'enthousiasme du corps. Certains ornithologues, m'a rapporté le compositeur Bernard Faure, évoquent à propos de l'alouette des champs l'exaltation. Pour ce merle, c'est le terme « importance » qui devrait s'imposer. Quelque chose importe, plus que tout, et plus rien d'autre n'importe si ce n'est le fait de chanter. L'importance s'était inventée dans un champ de merle, elle le traversait, le transportait, l'envoyait au plus loin, à d'autres, à l'autre merle là-bas, à mon corps tendu pour l'entendre, aux confins où le portait sa puissance. Et sans doute le sentiment que j'avais eu d'un total silence, indubitablement impossible dans le milieu urbanisé sur lequel ouvre ma fenêtre, témoignait-il que cette importance m'avait si bien capturée qu'elle avait effacé tout ce qui n'était pas ce chant. Le chant m'avait donné le silence. L'importance m'avait touchée. Mais peut-être aussi n'ai-je été si bien touchée par ce chant que parce que j'avais lu, peu de temps auparavant, Manifeste des espèces compagnes de Donna Haraway. Dans ce très beau livre, la philosophe évoque les relations qu'elle a nouées avec Cayenne, sa chienne. Elle raconte comment ces relations ont profondément affecté sa manière d'entrer en rapport avec d'autres êtres, ou, plus précisément, avec des êtres autres qui comptent. Comment elle a pu apprendre à se rendre plus présente au monde, plus à l'écoute, plus curieuse, et comment elle espère que les histoires qu'elle vit avec Cayenne pourront donner l'appétit pour de nouveaux engagements avec d'autres êtres qui viendront à compter. Ce que ce livre de Haraway fait, et j'en découvrais l'efficace dans cette expérience, c'est susciter, induire, faire exister, rendre désirables d'autres modes d'attention, et inviter à prêter attention à ces modes d'attention. Non pas devenir plus sensible, un fourre-tout un peu trop commode et qui risque tout aussi bien de conduire aux allergies, mais apprendre à devenir capable d'accorder de l'attention. Accorder prend ici en charge le double sens de donner son attention à et de reconnaître la manière dont d'autres êtres sont porteurs d'attention. C'est une autre façon de déclarer des importances. L'ethnologue Daniel Fabre avait coutume de dire de son métier qu'il consistait à s'intéresser à ce qui empêche les gens de dormir. L'anthropologue Eduardo Vivero de Castro propose une définition très proche de l'anthropologie. C'est, dit-il, l'étude des variations d'importance. Il écrit par ailleurs que s'il y a quelque chose qui revient de droit à l'anthropologie, ce n'est pas la tâche d'expliquer le monde d'autrui, mais bien celle de multiplier notre monde. Je crois que les éthologistes qui observent et étudient les animaux, comme l'avaient si bien pris à cœur avant eux les naturalistes, nous proposent pour nombre d'entre eux un projet semblable. Rendre compte, multiplier les manières d'être, c'est-à-dire les manières d'éprouver, de sentir, de faire sens et de donner de l'importance aux choses. Quand l'éthologiste Marc Bekoff dit que chaque animal est une manière de connaître le monde, il ne dit pas autre chose. Certes, les scientifiques ne peuvent faire l'économie des explications, mais expliquer peut prendre des formes très diverses. Cela peut être recomposer des histoires compliquées, comme autant d'aventures de la vie qui s'entêtent et qui expérimentent tous les possibles. Cela peut être chercher à élucider l'énigme des problèmes auxquels répondent les solutions qu'ont inventées tels ou tels animaux, mais cela peut être également vouloir trouver une théorie générale tout-terrain à laquelle tous obéiraient. Bref, il y a des explications qui multiplient les mondes et honorent l'émergence d'une infinité de manières d'être, d'autres qui les disciplinent et leur rappellent quelques principes élémentaires. Le merle avait commencé à chanter. Quelque chose lui importait et plus rien d'autre, à ce moment-là, n'existait que le devoir impérieux de donner à entendre. Saluait-il la fin de l'hiver? Chantait-il sa joie d'exister, de se sentir revivre? Adressait-il une louange au cosmos? Les scientifiques ne pourraient sans doute pas l'énoncer de cette manière, mais ils pourraient affirmer que toutes les forces cosmiques d'un printemps naissant ont offert au merle les premières conditions de sa métamorphose. Car il s'agit bien d'une métamorphose. Ce merle, qui avait probablement vécu un hiver assez paisible, même si difficile, ponctué de quelques moments d'indignation sans conviction à l'égard de ses congénères, tentant de rester discret et de mener une vie sans histoire, cet oiseau chante maintenant à tue-tête, juché au plus haut et au plus visible qu'il ait pu trouver. Et tout ce que le merle avait pu, au cours de ces derniers mois, éprouver, sentir, tout ce qui donnait jusque-là leur sens aux choses et aux autres, s'agence à présent à une toute autre importance, impérieuse, exigeante, qui modifiera complètement sa manière d'être. Il est devenu territorial. Pour terminer cette navigation entre les champs humains et les champs animaux, Je vais vous faire écouter une bande son, une création sonore qui sort de mon atelier. C'est une bande sonore qui a servi il y a un an pour une performance au Panthéon à Paris, où j'ai réécrit la Déclaration universelle des droits de l'homme en incluant les non-humains et que j'ai lu dans ce temple des grands hommes, voilà, où il y a quand même quelques femmes, mais pas beaucoup. Et j'ai aussi inclus le début de cette Déclaration universelle des droits des vivants dans une performance que j'ai faite au Québec en janvier, invitée par la galerie R3 de l'Université de Trois-Rivières. C'était pour la Nuit des idées. Et cette Nuit des idées avait comme thématique « être vivant ». Et dans cette action que j'ai faite en forme de rituel qui convoquait les cinq éléments, j'ai mêlé des gestes, une vidéo et une pièce sonore pour faire une opération de la matière et du langage que j'espérerais réellement performative au sens du droit, qui pourrait produire des effets réellement en énonçant des principes. Et quelques mois plus tard, ce moment de performance m'apparaît encore plus important à cause de cette thématique « être vivant ». Et donc j'ai remanié la pièce sonore pour ce soir. Elle dure 20 minutes et je la partage avec vous.
Restons jusqu'à
Nous aimons faire des évaluations,
des décomptes, des analyses, des calculs. Nous aimons faire des mesures, des opérations, des prévisions, des spéculations. Nous aimons faire des lois, des réglementations, des accords, des constitutions, des conventions. Nous aimons donner des positions, des directives, des caps, des orientations, des perspectives. Nous aimons faire des livres, des articles, des colloques et des congrès. Nous pensons agir sur le monde avec ces textes, ces mots, ces papiers. Mais il nous reste encore à écrire un texte pour faire prendre un tournant à l'histoire du monde, pour faire avancer l'histoire du monde et pas seulement des humains, pas seulement l'histoire humaine du monde, mais l'histoire du monde dans sa totalité. Une pan-histoire, une nouvelle histoire pour revivifier le monde, une nouvelle histoire pour les vivants, pour tous les vivants du monde, une nouvelle histoire pour un monde vivant, pour un monde peuplé de vivants en survie qui persistent et résistent, pour un monde peuplé de survivants, de super-vivants, en vie survivante, hyper-vivante dans la vie. Nous pourrions commencer par une déclaration fondamentale et universelle, véritablement pour la vie.
Article 1. Toutes les entités vivantes naissent libres et égales en dignité et en droit. Elles sont douées de conscience, de sensibilité et de rationalité et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment d'espèce, de race, de couleur, de sexe, de langue, de forme, d'origine terrestre, maritime ou céleste, de naissance ou de toute autre situation cosmique. De plus, il ne serait fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une être vivante est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Article 3. Toute entité vivante a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de son être. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude, nul ne sera exploité injustement. L'esclavage et la traite des êtres vivants sont interdits sous toutes leurs formes. Article 5. Nul ne sera soumis à la destruction, ni à la torture, ni à des peines ou traitements cruels ou dégradants. Article 6. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Article 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Article 8. Tout être vivant a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, déraciné, déplacé, détenu ni exilé. Article 10. Tout être vivant a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Article 13. Tout être vivant a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État ou d'un territoire. Tout être vivant a le droit de quitter tout pays ou territoire, y compris le sien, et de revenir dans son pays ou territoire. Article 14. Devant la persécution, tout être vivant a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays ou d'autres territoires. Article 15. Tout être vivant appartient à la terre et là est sa seule nationalité. Article 16. À partir de l'âge qui correspond à son évolution, chaque être vivant, sans aucune restriction quant à l'espèce, la race, la forme, l'origine, a le droit de s'accoupler et de se reproduire. Article 17. Tout être vivant aussi bien seul qu'en collectivité, en groupe, en tribu, en meute, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Article 18. Tout être vivant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Article 19.
I'm sorry.
à bientôt sur la planète Terre, dans Dédale dedans. Il est moins minuit.